L'avant-match. Voici François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci toi-même.
Est-ce que tu me trouves fou de penser que le Canadien pourrait échanger Price contre Panarin et Bobrovski?
Non, parce que je l'ai vu, écoute, cet après-midi que j'ai vu ça, que ça a passé sur Twitter, puis j'ai eu une partie de la journée pour y réfléchir, puis je comprenais exactement ce que tu voulais dire, dans le sens où tu sais, t'as un gars sous contrat qui a moins de valeur que les deux autres ensemble, mais comme ils sont agents libres et qui vont devenir agents libres, ben, du côté de Columbus, on se dit ben au moins on perdrait pas les deux joueurs sans rien en retour. Mais tu sais, évidemment, tu l'as mentionné, je pense que c'est quelque chose qui serait impossible à réaliser pour bien, bien, bien des raisons. Mais il y a une chose que j'ai trouvé intéressante, puis parce que je regardais, tu as parlé de réponses tantôt, puis je regardais ce que les gens pensaient, puis tout ça.
Ouais.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le Canadien serait incapable d'échanger Carey Price à cause de son contrat. Moi, je pense que c'est totalement faux. Qu'on aime ou non Carey Price, si demain matin, tu es prêt à l'échanger à un prix qui est quand même raisonnable, c'est sûr que tu vas trouver preneur,
ben
parce
oui.
que, je veux dire, il y a au moins 7 ou 8 clubs dans la Ligue nationale qui ont besoin d'un gardien de but. Que vous aimiez Price, que vous considérez comme le premier, le cinquième, le dixième, le quinzième meilleur gardien, ça change rien. Puis je comprends très bien le fait qu'à 10 millions et demi jusqu'à quoi fin trentaine, c'est énorme comme contrat. Mais je suis convaincu qu'on trouverait preneur, ça, j'ai aucun doute là-dessus.
Le problème, c'est pas que les autres équipes voudraient pas du contrat de Price, c'est que le Canadien a un attachement émotif et ne veut pas échanger Price.
Oh, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis là-dessus, en tout cas, on verra comment les prochaines années vont se dérouler, mais il s'apprendrait. Il faudrait qu'il arrive quelque chose à la Patrick Roy, là, les deux mains en l'air, puis quelque chose comme ça pour qu'il y ait comme une cassure qui se fasse pour qu'on décide de l'échanger. Mais sinon, je suis pas mal convaincu, moi aussi, que au moins pour les 5 ou 6 prochaines années, il va être là. Puis ce qui pourrait arriver, Dan, c'est peut-être à la fin du contrat, quand il te reste 2-3 ans, si le Canadien est 23e au classement général, puis qu'il se dit je veux peut-être avoir une chance d'aller gagner ailleurs, c'est peut-être la seule chose qui pourrait arriver, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi que Marc Bergevin, l'organisation du Canadien, l'a identifié comme son joueur clé, a décidé de le payer comme son joueur clé, puis on verra dans les prochaines années s'ils ont raison, mais force est d'admettre que dans les dernières années, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné la Coupe Stanley en ayant comme meilleur joueur et joueur le mieux payé leur gardien de but. Il y en a eu, mais je pense qu'il n'y en a pas eu une tonne.
Non, puis le non-sens dans le plan actuel du Canadien, c'est qu'on veut rebâtir une jeune équipe. Puis Marc Bergevin n'arrête pas de dire il veut pas échanger Kotkaniemi, il veut pas échanger Jolson, puis Poilig, puis il veut garder tous les jeunes joueurs, puis tous les choix, puis Suzuki. Puis dans 4-5 ans, on va être bon. Mais dans 4-5 ans, Carey Price, il sera plus bon.
En tout cas, il va être plus vieux, c'est déjà le problème.
Il a 31 ans, ça fait 12 ans qu'il est dans l'organisation. J'ai été son plus grand défenseur à Québec en 2010, quand les gens se demandaient s'il fallait garder Price ou Halak. Sauf que 12 ans plus tard, pas 12 ans plus tard par rapport à 2010, mais 12 ans plus tard par rapport à son arrivée avec les Canadiens, mettons 2007, c'est un gars qui a été repêché en 2005, la même année que Crosby. Mais c'est pas compliqué, le Canadien n'a pas réussi à se rendre une fois en finale. Pourtant, allez, écoutez parler les gens dans le 514, c'est vraiment le meilleur gardien. Oui, mais soit qu'ils l'ont mal entouré, qu'ils ont fait des mauvaises transactions, puis il y a des gars qui ne sont pas développés. Là, si tu veux repartir sur une base solide, puis devenir un jour les Blackhawks de Chicago ou les Leafs de Toronto, bien, surtout d'avoir un gardien de 24-25 ans, ou prends-en un en location 2-3 ans, puis à un moment donné, t'en repêcheras un bon, puis ça ne te donne rien d'avoir un gars de 31 ans avec ce gang-là.
Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir comment l'organisation va gérer tout ça. Évidemment, si on vient qu'à participer aux séries cette année, les attentes seront pas élevées. Mais tu aurais besoin, à un moment donné, là, dans les 2 ou 3 prochaines années, que Price, en série, en volume à lui-même. Tu sais, vraiment, là, dire que tu gagnes une série en 7 matchs, puis il gagne 3 matchs à lui tout seul, c'est pas arrivé souvent. Tu sais, puis je veux pas... moi aussi, je fais partie de la même gang que toi, Dan. Je l'ai toujours défendu. Je continue de croire qu'on avait pris la bonne décision avec Halak à l'époque. Puis, mais tu sais, à un moment donné, c'est sûr que quand ce que tu gagnes, ça a été au niveau international, ce que tu as fait pour ton équipe, on peut pas dire que les ardents défenseurs comme toi et moi, on a une tonne d'arguments pour le défendre. Puis à un moment donné, ben, on va peut-être arriver justement à la conclusion qu'il va falloir prendre une décision, mais tu sais, la décision, il faut qu'elle se prenne d'ici un an ou deux, pas dans 5 ou 6 ans, parce que là, ça va être trop compliqué, puis tu vas rester collé avec le reste du contrat. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça va être intéressant.
En série, là, il est toujours le meilleur, ça a fait 8,5 par 11 quand tu compares, mais c'est jamais le meilleur des deux goalers de la série.
Vu de même. Mais Avoue que non, puis mais, les gens vont me dire, non, les gens partons, vont dire qu'il y a une bonne.
François, tu as une bonne mémoire, on va s'en servir, OK? Partons d'aujourd'hui puis reculons dans le temps. Puis Will, qui est en régie, va nous donner un coup de main aussi. Lui, il a une bonne mémoire, puis il a un ordinateur en plus. Si jamais, à trois, on n'est pas capable d'avoir la bonne réponse. L'année dernière, le Canadien en série, ça a donné quoi?
L'année passée, ça n'a pas donné grand-chose.
Ils ont manqué. Parfait. L'année d'avant, ils ont perdu contre les Rangers en première ronde, c'est ça?
Il y a deux ans, oui.
Parfait.
Oui.
Lundqvist a été meilleur que Price. Bon, à date, on a deux ans de fête, il n'a pas été meilleur que le gars l'autre bord. L'autre
année d'avant. Je me rappelle que j'avais pris le Canadien parce que j'avais dit que justement le Canadien avait un meilleur gardien que les Rangers de New York. Je me rappelle de ça, oui.
OK. Là, on est rendu au printemps 2016. Le Canadien a manqué une série. D'après moi, c'est l'année où il s'est blessé toute l'année. Parfait.
Fait qu'on a manqué de deux des trois dernières années.
OK. Printemps 2015. Ça a donné quoi pour le Canadien?
Bonne question.
Victoire contre les Sénateurs en première ronde.
OK.
Perd en deuxième contre Tampa.
Puis, ouais.
Est-ce que okay, Price a été vraiment meilleur que Craig Anderson dans la première ronde? On n'est pas trop sûr.
Non.
OK. 2014 maintenant. 2014, en première ronde, le Canadien a battu Boston de mémoire après avoir tiré de l'arrière 3-1. Ils ont gagné en 7. Price a été vraiment bon. Subban aussi, d'ailleurs. Price a été meilleur qu'on va dire Rask. Après ça, en deuxième ronde, je me souviens pas qui. Puis en troisième, il s'est blessé, c'était contre les Rangers. C'est ça?
C'est l'année de Criders.
Oui, les Rangers, en 2014, ont perdu en grande finale contre les Kings. Je me souviens pas l'autre ronde. Mais, tu sais, on est en 2019. Là, tu vas me dire, il y a bien des années qu'il a manqué série. Oui, mais il a manqué série. S'il est blessé, il peut pas les amener loin. Mais s'il est pas blessé, il faut qu'il amène au moins Schlubla en série. Tout le monde dit que c'est le meilleur goaler. Puis là, je t'ai pas parlé de 2013, 2012 puis 2011. Là. On va se rendre compte que finalement, il a joué 8-9 fois une série dans sa vie, puis il a été meilleur que le goaler l'autre bord, une fois ou deux, en 9. Si c'est Chris Osgood de qui on parle, je peux accepter. Si c'est Carey Price, c'est un non-sens total.
Ah, bon, écoute, surtout que là, à ce temps-ci, au prix que tu vas le payer, les résultats se doivent d'être un peu, même pas mal meilleurs que ce qu'on a vu, mais il reste toujours que cette étiquette-là de meilleur gardien au monde, c'est pas Price qui l'a demandé non plus. Hein? Puis on l'a comme étiqueté aussitôt qu'il est arrivé. C'était comme le... Tu vas être notre pilier, on va construire autour de toi. Puis une pression qui s'est installée, je sais pas si cette pression-là, il l'aime, peut-être qu'il s'en sacre royalement aussi. Mais c'est fou parce qu'à un moment donné, on dirait que... Puis je vais te prendre l'exemple du match des étoiles de cette année. Carey Price a été sélectionné pour le match des étoiles. Il n'y avait pas d'affaire là, mais pas du tout. Il n'est pas allé pour des raisons de blessure. Mais tu sais, encore là, il est sélectionné pour le match des étoiles un peu par défaut. Les gens chialent parce qu'il n'y a pas d'affaire là, mais c'est pas lui qui l'a demandé non plus. Fait qu'on dirait que, tu sais, aussitôt qu'on l'a repêché cette année-là, 2005, cinquième au total, les gens n'étaient pas en accord avec le choix parce que le Canadien, à l'époque, avait un ou deux bons gardiens de but. Le développement s'est fait, puis à chaque fois qu'il est arrivé, on dit toujours que, tu sais, à un moment donné, c'était Christophe Allouet, puis après ça, il y a eu Yaroslav Halak, qui n'a jamais été capable d'avoir le cœur des partisans du Canadien à 100%. On dirait qu'il y a des gens qui l'ont pris en grippe aussitôt qu'il est arrivé dans la Ligue nationale.
Oui. Mais à cause de son attitude. À cause de son attitude, François.
Oui, ben, au départ, surtout dans les 5 ou 6 premières années. Je pense que depuis 2 ou 3
long,
ans.
5 ou 6 premières années,
oui,
avec une mauvaise
attitude. Tu vois que depuis qu'il est père de famille, tout ça, je pense qu'il a l'air de quelqu'un de très calme et que les joueurs apprécient énormément.
Ouais.
Mais tu sais, tout ça pour dire que quand on va arriver à la fin de sa carrière, c'est sûr que probablement qu'au niveau statistique, c'est-à-dire nombre de victoires, nombre de matchs puis des choses comme ça, pas en saison régulière, il va être dans les meneurs. Mais côté série éliminatoire, Coupe Stanley, ça c'est tel que tel, parce que je veux dire, à 31 équipes, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va en gagner une durant sa carrière, mais on peut pas dire qu'il a été très impressionnant dans les grands moments. Puis même, Dan, j'ajouterais, tu sais, quand le Canada avait gagné avec l'équipe Canada Junior, il avait gagné en fusillade en demi-finale, puis tout ça, Price avait pas été étincelant, là. Le Canada avait gagné parce qu'il y avait une très bonne équipe.
Ouais.
La seule fois qu'on l'a vu au sommet de son potentiel, c'est aux Jeux Olympiques. On dirait que là, le fit était parfait pour dire, t'as une bonne équipe, fait juste les petites choses, les arrêts. Il avait pas eu à voler des matchs, évidemment. Je pense que c'est là qu'il avait été à son meilleur. Puis les gens s'attendaient peut-être à un peu trop quand il était revenu, justement, de ses bonnes performances aux Olympiques.
OK, Nikita Kucherov, rapidement. On commence un pool de hockey au mois d'octobre l'an prochain. Kucherov, cette année, fait 121 points. Connor McDavid, 107. Est-ce que tu es d'accord avec moi que 7 tables sur 8 où on fait un pool de hockey, le premier choix va être McDavid?
Oui, je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'ai souvent dit que pour les 12-15 prochaines années, McDavid serait le premier choix, que c'était le choix numéro 2 là, qui devenait, à un moment donné, Kucherov, Matthews, puis nommez-les, il y en a une tonne de candidats. Mais je pense que la question va se poser l'année prochaine, à savoir quelle direction tu prends. T'sais, McDavid reste, je pense, le joueur le plus complet. Mais on a parlé d'entourage, justement. Là, écoute, le Lightning est une équipe formidable qui ne seront pas capables de garder pendant 5 ans parce qu'il va falloir payer tout le monde. Mais ce qu'on voit présentement, c'est phénoménal. On parle peut-être même d'une saison de 100 passes. 100 passes dans une saison, on n'a pas vu ça depuis des lunes. Oui. 130 points dans la Ligue nationale, c'est depuis les années 90. Puis dans le cas de Kucherov, l'année passée, il avait fait 100 points sur le nez. Puis évidemment, il va exploser ça cette année, peut-être pour un 130 points. Assurément, ça devient ton choix numéro 2 derrière McDavid, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vont aller du côté de Kucherov l'année prochaine en se disant il est mieux entouré. Oui, McDavid va faire 90 points avec une équipe qui en arrache, ou peut-être même 100 ou 110, mais Kucherov est en train d'établir les standards pour un joueur d'avant des années. Tu sais, où est-ce qu'on est rendu là, dans la Ligue nationale avec les nombreux avantages numériques puis les buts qui se marquent un peu plus qu'avant? Kucherov devient un choix très intéressant pour le premier choix d'un pot.
François Manny Machado, 300 millions. Pourquoi les gens qui suivent un peu moins le baseball que toi sont surpris que ce soit à San Diego, une équipe qui finalement n'a pas l'air d'être si compétitive que ça?
Ouais, ben écoute, je pense que les gens ont le droit d'être surpris parce que moi, je pensais à un moment donné que les Padres étaient juste, tu sais, figurants là, pour dire combien ça pourrait coûter puis tout ça. Puis c'est surtout que Manny Machado avait laissé entendre qu'il voulait pas aller jouer dans l'Ouest américain, qu'il préférait jouer peut-être plus pas dans l'Ouest, puis peut-être jouer un peu plus dans l'Est ou au niveau central. Puis finalement, écoute, les offres sur la table, je pense, se ressemblaient énormément. Que ce soit les White Sox, eux avaient joué sur la famille, ils avaient été chercher son beau-frère, un de ses meilleurs amis, ça a pas marché. Les Phillies ont mis l'argent, et je pense qu'avec l'arrivée de Segura, on voulait le faire jouer au troisième but, ça l'intéressait moins. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que les Padres, c'était peut-être une option intéressante pour un gars qui va aller dans une organisation qui en arrache énormément depuis plusieurs années. Ils ont perdu 98 matchs, je pense, l'an passé, mais qui s'en vont définitivement dans la bonne direction. Ils ont des très bons joueurs, des très bons jeunes joueurs, dont entre autres Fernando Tatis Jr., le fils de Fernando Tatis, qui joue avec les Expos, qui est le deuxième meilleur espoir du baseball majeur derrière Vladimir Guerrero Jr. Donc, tu sais, je peux comprendre le choix, mais il est quand même surprenant parce que, comme tu mentionnes, les Padres, c'est pas nécessairement bon. Puis c'est pas le plus gros marché du baseball majeur non plus. Puis c'est quand même assez surprenant parce que l'année passée, on avait donné 145 millions à Eric Hosmer, et le joueur de premier but des Royals. Et le pire, Dan, c'est qu'aujourd'hui, les Padres disent si Bryce Harper est intéressé, on a encore de l'argent pour aller le chercher. Mais dans le cas d'Harper, c'est probablement entre 30 et 40 millions de dollars par année. Là, ce serait quand même surprenant. Oui. Je reste convaincu qu'Harper va aller à Philadelphie. Okay. Ça semble se diriger vers ça. Mais quand même une petite surprise de voir Machado aboutir avec les Padres de San Diego.
Absolument. Gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée.
Au retour de la pause, on parle des Sénateurs d'Ottawa.
And there's one into left center field. This ball is gone for a home run. Manny Machado.